Alors merci à toutes et à tous, merci à l'INP et au musée de nous accueillir. Pour prendre de la hauteur, je m'excuse, je fais 1,75 m, c'est quand même relativement, c'est pas très grand. En revanche, je vais essayer de peut-être de mettre un peu en perspective des choses. Peut-être en commençant par expliquer comment on peut, comment on en arrive en tant qu'historien de l'art à se préoccuper de vivant. Un peu par hasard, je vous avoue. Mon champ de recherche de départ, c'est plutôt Fluxus, l'émergence des pratiques performatives dans les années fin des années 50, début des années 60. Aujourd'hui, je suis dans une unité de recherche qui est financée par le ministère de la Culture, qui s'occupe de globalisation culturelle, donc vraiment pas trop dans la question du vivant. Et puis, il y a quelques années, j'ai répondu à un appel à communication, c'était pour un LABEX, il y a eu un colloque à l'INHA, et puis on a enchaîné sur un article dans Gradiva, et puis après j'ai été invité au musée du Quai Branly, et petit à petit, en fait, vous vous retrouvez embarqué dans un champ pour lequel je n'ai aucune compétence. D'ailleurs, le terme insecte dans mon énoncé de titre est sans doute et même complètement fautif. Je vais parler d'êtres qui ressemblent à des insectes, que sans doute mes enfants appelleraient des insectes, mais qu'un spécialiste avisé n'appellera certainement pas un insecte. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même un lien dans le sens où ce qui m'intéresse dans le champ de l'art contemporain n'est pas ce que les artistes mobilisent du vivant ou ce que les artistes disent du vivant dans leur travail, etc. Je ne me place pas du côté de l'intentionnalité de l'artiste ou d'une documentation de l'intentionnalité de l'artiste, mais c'est plutôt, je m'intéresse à ce que le vivant dans le champ de l'art fait à ce champ et à l'ensemble de ce champ, c'est-à-dire à l'ensemble de ses acteurs, particulièrement. Certaines et certains qui sont ici et qui sont des conservateurs appelés à devenir des chefs de service, des directeurs d'institutions, etc. Alors peut-être qu'il faut commencer par réhistoriciser le concept d'œuvre d'art qu'on utilise, qui est une construction sociale et historique européenne en grande partie, et qui s'est sédimentée depuis la fin du Moyen Âge autour de quatre paradigmes qui domine la production d'artefacts susceptibles d'être qualifiés d'œuvres d'art. Le premier de ces paradigmes, c'est la primauté accordée au visuel sur les autres sens, qui domine le champ. Le deuxième de ces paradigmes, c'est l'objectualité comme condition sociale principale. L'œuvre d'art est d'abord un objet. En tout cas, c'est comme ça qu'en Europe, on a conçu, on a conceptualisé l'œuvre d'art. Troisième paradigme, qui est un corollaire de la condition d'objet, c'est l'affirmation d'une unicité sémiomatérielle. L'œuvre d'art n'est pas une espèce de processus ouvert à l'infini, elle est une espèce de clôture sémantique, symbolique, etc. Et puis, quatrième paradigme, qui est lié à la construction d'une économie ou d'économie de l'art au pluriel, c'est le règne de l'unicum comme principe de structuration économique du champ de l'art. Alors évidemment, ce sont des dominantes lourdes, en aucun cas exclusives. Mais les acteurs du champ de l'art, artistes, critiques, mais aussi galeristes, tous les acteurs du champ de l'art ont affiné et sédimenté par leurs interactions sociales cet espace logique entre notamment le XVIIIe siècle et nos jours, et notamment, vous connaissez cette histoire, en excluant progressivement les éléments de la nature. Donc, encapsulé dans le concept de patrimoine et de tout ce qui en découle en termes de pratiques de conservation, de muséologie, de droit, etc., eh bien vous avez ces quatre paradigmes dominants qui structurent un petit peu le champ. Or, justement, dans ma période d'intérêt initial, le début des années 60, on assiste à des débats artistiques, notamment dans la scène américaine. Voilà, 1957, 1970, dans lequel le mot living est souvent mobilisé pour qualifier ce qu'on appellerait des happenings ou des performances, etc. Et dans l'émergence des happenings aux États-Unis, par exemple, l'un des principaux protagonistes de l'émergence des happenings, Alan Kaprow, qui est aussi un grand théoricien du happening, il a notamment aussi utilisé le terme d'environnement dont il a fait un concept esthétique. Or, c'est très important parce que les pratiques performatives, parmi lesquelles le happening, ont eu vocation dans ces années-là, hein, à désobjectualiser l'œuvre d'art. Il fallait aller vers des processus ouverts, vers des relations dynamiques. Et ce que dit bien le terme d'environnement au sens esthétique du terme, tel qu'il est déployé par les artistes de l'époque, c'est cette idée que quand on rentre dans un happening, on est dans un rapport de continuité dynamique avec quelque chose qui nous entoure, qui nous dépasse, et dans lequel on est partie prenante d'un milieu. Au fond, si je devais trouver un synonyme dans un autre champ notionnel, c'est peut-être le terme de milieu qui serait le plus adapté. Et au fond, dans Fluxus, il y a déjà un tout petit peu de vivant. Une artiste comme Alison Knowles, notamment, faisait des boîtes Fluxus avec des graines de haricots. Alors, ce qui a été un des premiers cas muséologisation de vivant, puisque cette boîte est rentrée dans la collection du MoMA, et que les conservateurs en charge du fonds Fluxus du MoMA devaient en permanence enlever les graines qui germaient, parce qu'évidemment c'était un petit peu contraire aux règles de conservation, etc. Donc, vous voyez, il y a cette idée du ver dans le fruit. Dès le départ, ce mot living, cette idée du vivant, avant même que des artistes comme ceux qu'on croise aujourd'hui, qui mobilisent des araignées, qui mobilisent des chiens, qui mobilisent tout un tas d'êtres dans des installations, il y avait déjà l'idée que le terme de vivant était là pour porter une espèce de guerre, hein, vis-à-vis de la condition d'objet de l'œuvre d'art. En tout cas, c'était mobilisé en ces termes par les artistes. Donc l'intégration d'éléments vivants dans toute ou partie des constituants de l'œuvre tend à mettre à l'épreuve les quatre paradigmes énoncés précédemment et engage un rapport polémique avec cette histoire, avec les institutions qui la portent, parmi lesquelles le musée, les fonctions de patrimonialisation et un certain nombre d'acteurs. Et à ce titre, un chercheur qui s'appelle Fernando Domínguez Rubio a parlé du musée comme d'une machine à objectifier, hein, il parle de objectification machine, dans lequel les œuvres peuvent être décrites soit comme dociles, soit comme indisciplinées. Et la boîte de haricots est plutôt du côté de l'indiscipline. Mais c'était dans les années 60. Aujourd'hui, il y a des œuvres beaucoup plus indisciplinées que des boîtes de haricots. Donc, il paraît clair que les œuvres qui incorporent des animaux ou des insectes font partie de cette catégorie d'objets indisciplinés. Et c'est toujours un défi pour la conservation, le musée. Et les acteurs sociaux, humains et non humains, du monde de l'art auquel participe cette entité, ne cessent de coopérer pour surmonter le régime de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a un régime de contradiction qui est produit par un droit patrimonial, un certain nombre de règles administratives, et il faut essayer de contourner, bricoler, construire des coopérations pour produire quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va passer vite sur ces exemples qui sont. Voilà. C'est un exemple classique. Hubert Duprat, c'est un artiste français qui a travaillé à des dispositifs dans lesquels il utilise des larves de trichoptères. Donc, ce sont des insectes, je parle sous le contrôle des spécialistes, qui utilisent leur sécrétion pour construire des fourreaux avec les éléments de leur environnement immédiat. L'artiste, en l'occurrence, a délégué le geste sculptural à l'insecte et lui fournit le matériau, qui est un matériau fait de pierres précieuses, de choses comme ça. Alors il faut savoir que ce type d'œuvre est patrimonialisé. Au château d'Oiron, je crois que c'était sous la direction de Jean-Hubert Martin, qui est un conservateur enfin, qui a marqué l'histoire de l'art contemporain en France. Le château d'Oiron était à la fois un monument national et aussi avait une collection, et il a décidé de faire rentrer ce type d'œuvre dans la collection. C'est assez typique du goût que peut avoir Jean-Hubert Martin pour ses œuvres justement résolument indociles. Et en 2013, pardon, je suis tombé sur un article de Samuel Queneau qui fait office de régisseur et de chargé de la collection, qui racontait par le menu ce qu'il était obligé de faire pour faire exister cette œuvre journellement dans l'exposition, etc. Et il racontait par le menu les difficultés qu'il avait à acheter, par exemple, la nourriture, donc des poissons, etc. Vous imaginez, pour celles et ceux qui connaissent la comptabilité publique, aller établir un bon de commande pour aller acheter. Bon, ce sont. Vous voyez, quand Fernando Domínguez Rubio parle d'œuvres indociles, c'est ça, c'est des petites choses qui mettent en lumière en fait les normes sociales qui structurent un champ, ses règles, etc. Et donc, voilà. Alors, j'ai choisi de m'intéresser non pas à des mammifères, j'ai déjà fait des études de cas avec des œuvres d'art avec des pigeons, etc., mais précisément avec des insectes ou assimilés, je vais les appeler comme ça, pour des questions d'échelle. Parce qu'un mammifère, au fond, c'est à notre échelle. La durée de vie des mammifères, c'est quelque chose qui est relativement gérable pour nous, humains, mais des mouches, mais des larves. Mais là, on est sur des choses avec des échelles qui sont totalement différentes de notre régime empirique de rapport au monde. Et c'est ça qui pose tout un tas de difficultés. Le régisseur, notamment dans cet article dans lequel il témoigne de son expérience, disait que c'était très compliqué de gérer la mortalité. Si vous nourrissez pas suffisamment ce type d'être, ils se cannibalisent entre eux, etc. Il y a une très grande mortalité, donc il faut avoir un vivier sous la main pour remplacer les êtres qui font fonction d'acteurs dans l'œuvre d'art. C'est pour ça que j'ai parlé de doublure dans mon titre. C'est comme les doublures au cinéma ou chez les cascadeurs. Ce sont des œuvres dans lesquelles vous avez des artistes en scène et puis vous en avez une quantité importante hors champ, mais qui tourne pour faire exister l'œuvre dans le temps de la durée d'exposition, qui est une durée qui généralement, si c'est plusieurs mois, etc., excède souvent les temporalités de vie de ces êtres. Donc, ça pose des questions d'échelle extrêmement compliquées. Comment on fait avec la nourriture? Comment faire avec les rapports d'échelle? Comment faire avec la mortalité? Quid de la restauration? Dans ce cadre-là, par exemple, le problème, c'est que, évidemment, les insectes, ils produisent une colle naturelle qui va pour la force exercée par les êtres qui sont à leur échelle. Mais quand le conservateur, une fois l'exposition finie, doit prendre les fourreaux avec ses doigts pour les remettre dans des petites caisses ou des systèmes de rangement, et bien souvent il les brise. Et donc là, il y a des cas de coopération tout à fait intéressants, puisque ça nécessite de faire intervenir un restaurateur pour venir suppléer à la force de la bave de l'insecte qui n'est pas nécessaire pour l'échelle humaine, et donc on utilise du paraloïde R en même temps que. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans une espèce de bricolage pratique en l'absence de normes, etc., même si il y a des normes qui s'exercent pour le vivant, etc., mais on est quand même dans quelque chose qui est très expérimental pour des œuvres qui, comme celle-ci, la carrière de Duprat remonte plutôt au début des années 90, etc. On était vraiment dans l'expérimentation au début, hein, donc on apprenait sur le tas. Ça nécessite de s'adapter, de trouver des solutions, de trouver des manières de faire des bons de commande un peu particuliers, etc., etc. Faisons un petit peu de fiction théorique maintenant. Voilà les tubes de trichoptères. Alors, je trouve que c'est assez intéressant comme manière de photographier. J'ai pris délibérément les photographies les plus couramment utilisées pour montrer le travail de Duprat. C'est quelque chose que m'avait déjà appris l'iconographie des bois de Fluxus. L'iconographie de la manière dont on photographiait les bois de Fluxus était une manière d'invisibiliser tout un tas de dynamiques sociales qui pourtant faisaient partie du travail de Fluxus, l'interaction sociale, etc., etc. On revient, vous voyez, le naturel revient au galop, mais ce n'est pas le naturel, c'est l'objet. C'est-à-dire qu'on revient à un régime de regard qui magnifie l'objet en lui-même, et on n'a pas en fait l'environnement, rarement, très rarement, l'environnement de travail est montré, c'est-à-dire l'espace forclos dans lequel travaillent les insectes, ce qu'ils mangent, etc., etc., c'est délibérément invisibilisé. Ça en dit long quand même sur notre champ et la manière dont les règles un peu tacites sur lesquelles on se fonde. Alors, vous avez tous vu récemment des œuvres de Thomas Saraceno à Paris. Cette photographie-là a été prise à Lyon suite à la Biennale de 2015. Alors, vous voyez, je ne cherche pas à m'intéresser au discours de l'artiste parce que si vous vous intéressez au discours de Thomas Saraceno, c'est une réflexion métaphysique d'assez haut vol sur la question du cosmomorphisme, sur. Voilà. Et il y a une montée en généralité et un degré de métaphorisation qui est relativement énorme et qui masque les effets pourtant décisifs que produisent ces œuvres dans un contexte d'exposition, dans un contexte muséal. Voilà, c'est pareil, il faut des doublures. Ces araignées que vous avez admirées, vous admirez des actrices dans l'espace d'exposition, mais il y en a en coulisses. Et puis il faut d'autres insectes, parce qu'il faut bien les nourrir, il faut des grillons pour les nourrir, il faut des quantités de grillons pour les nourrir. Eh bien, imaginez que le centre Pompidou se prête acquéreur de cette œuvre, qu'elle ne soit patrimonialisée, qu'elle ait un numéro d'inventaire, qu'elle rentre dans un 18 colonnes non numérisé. Eh bien, où est-ce qu'on. Qui s'occupe de la nourriture de ces insectes? Comment faire pour les faire subsister, etc. Alors, ça pose tout un tas de questions, notamment une distinction entre le lieu de l'exposition et la réserve. Le problème de ces œuvres-là, c'est que les insectes rentrent difficilement dans les réserves, hein, sinon en passant par une chambre d'anoxie, qui est la règle pour l'entrée. Vous voyez, on est dans une espèce de double bind, hein, de double injonction contradictoire. La réserve étant un lieu dans lequel on ne veut surtout pas voir des choses de cet ordre, et l'espace d'exposition étant un endroit de surexposition relativement croissant aujourd'hui de ce type de dispositif. Néanmoins, je crois que comme la performance a fait évoluer les pratiques muséales, je prends le pari que d'ici 10 ou 15 ans, les pratiques muséologiques se seront aussi transformées au contact de ces œuvres, et notamment suite à des patrimonialisations. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'espace où on peut gérer ça, c'est quand même l'espace d'exposition. C'est-à-dire que, pour faire référence au titre de la journée, on veut bien accepter l'insecte vivant, mais dans l'espace d'exposition. Dans les réserves, ce n'est pas encore pour tout de suite. Ce qui veut dire qu'il y a un changement de mode d'existence de l'œuvre de l'un à l'autre. Comment on traduit ce passage? C'est-à-dire, à un moment, vous avez une notice marquée tricoptère, etc. Puis ben, dans les caisses, il n'y a pas de tricoptère. C'est quelque chose qui relève vraiment de la traduction. Et là encore, il y a des réserves très importantes en termes cognitifs dans l'art des années 60. C'est le régime de la délégation de production et du protocole qui, au fond, mobilisé par les artistes, est l'outil qui tient lieu de contrat social et qui permet cette ontophanie, c'est-à-dire de faire surgir le vivant à un moment dans l'espace d'exposition pour un temps donné, et de le résorber dans un objet quand ça passe en réserve. Et au fond, on a quelque chose de très composite avec des œuvres d'art qui rentrent dans un régime d'existence strictement objectuel, quand c'est en réserve, etc., etc., et qui accède à un mode d'existence mixte avec du vivant uniquement sur la période de l'exposition, et nonobstant un certain nombre de contraintes, hein, pour éviter que les insectes partent dans tous les sens, etc., etc. C'est-à-dire que c'est toujours relativement contraint et borné. On accepte le vivant, mais sous un certain nombre de bornes et de contraintes. C'est la logique du protocole, la délégation de la production qui est typique de l'art minimal, de l'art conceptuel, ces artistes qui rédigeaient au fond des notices pour que d'autres qu'eux-mêmes réalisent l'œuvre, ce que les artistes conceptuels appelaient des statements, ce que les artistes fluxus ont pu appeler des even scores, c'est-à-dire des partitions verbales qui appelaient un autre ou eux-mêmes à un autre moment une forme de réalisation. Et on est du coup dans un mode d'existence qui est aussi un mode d'existence itératif, dans lequel on va pouvoir répéter, remoduler, etc. Alors c'est d'autant plus intéressant que la forme de l'œuvre va varier en fonction du droit et de la législation qui s'applique aux vivants dans le lieu d'exposition ou dans la juridiction nationale qui s'applique. Dans l'étude de cas que j'avais étudiée pour l'article dans Gradiva, j'avais notamment regardé Flying Rats, une œuvre de Kader Attia avec une cinquantaine de pigeons. Bon, bah, par exemple, il y a un droit très spécifique qui s'applique en France sur le nombre de mètres carrés alloués aux pigeons, etc., etc., le type de suivi vétérinaire. Si vous l'exposez aux États-Unis ou en Suisse, ce n'est pas le même nombre de mètres carrés. C'est-à-dire que l'installation change littéralement de forme. Alors, voilà un petit peu toutes les questions que posent ces œuvres. Et ce que ça pose aussi comme question, c'est est-ce qu'au fond, la pratique de la conservation pour ce type d'œuvre n'est pas une pratique de conservation qui devient davantage une pratique de production ? Conserver ces œuvres revient au fond à trouver en permanence les conditions de pouvoir les reproduire dans des conditions qui ne peuvent pas être identiques parce que le droit peut varier, mais qui doit être similaire, en tout cas conforme à quelque chose qui relève de l'intentionnalité de l'artiste. C'est vraiment des logiques de traduction, de diplomatie, pour reprendre des termes de la sociologie latourienne. Et donc, le défi, c'est bien que l'élément qualifié de vivant doit exister dans un référentiel à dominante objectuelle, du forclos, de l'unique, etc. Je ne crois pas du tout, et ce n'est pas mon discours ici, que on va changer le droit patrimonial comme ça, en claquant des doigts, et tout d'un coup, l'objet ne va plus devenir la règle, etc. Je pense qu'on va hybrider des modèles juridiques, des modèles voilà, pour rendre compte d'un pluralisme ontologique, hein, d'un différents modes d'existence, qui permettent à la fois au musée de perpétuer ses missions de conservation à long terme qui sont peut-être voilà, et en même temps d'accepter en son cœur des œuvres dans lesquelles il y a du vivant. Ça suppose aussi de changer la manière de faire de l'histoire de l'art. Moi, j'ai appris à faire de l'histoire de l'art en documentant voilà, l'intention de l'artiste, en allant en archives, en regardant les œuvres, en les décrivant matériellement. Mais par exemple, si je ne vais pas dans le bureau de l'attaché de conservation et que je ne vois pas les vivariums, et au fond, ça, c'est quasiment, ça revient à faire de l'ethnographie, c'est-à-dire faire du musée une enquête de terrain. Et là, je me retrouve assez proche de travaux comme ceux que font Yael Kreplak, une chercheuse qui regarde vraiment les pratiques et comment on fait exister, comment on construit l'œuvre d'art dans sa vie de tous les jours, dans les salles d'exposition, dans les réserves, ailleurs. Ça implique aussi de déconstruire la séparation entre l'esthétique et le social, qui a été propre à la construction historique de la théorie esthétique européenne et qui est un peu handicapante pour penser ce type de dispositif. Voilà, borner la vie, c'est-à-dire que le vivant continue, mais voilà, j'arrive à ma conclusion. Le vivant est tout à fait possible, mais il demeure borné, et la première des bornes à établir, c'est des bornes temporelles, des bornes spatiales, et l'exposition est le dispositif dans lequel on peut mobiliser ces bornes, davantage que dans la réserve. Le vivant patrimonialisé, il aurait donc deux types d'états, un état virtuel via le protocole, ce qui devient une forme de contrat social, et l'état réel, qui serait ce moment de l'exposition où le temps et l'espace sont bornés. Et je parlais de soigneur, c'est boutade, mais vous connaissez tous l'étymologie du mot curator en anglais, qui est l'équivalent dans votre métier de conservateur dans les pays britanniques, c'est curare en latin, et c'est bien prendre soin. Et dans les cas qui m'a été donné de regarder ou d'étudier, d'observer, eh bien, on a des gens qui étaient habitués à prendre soin d'objets et qui avaient, je veux dire, des compétences techniques tout à fait adaptées à ce type de dispositif, qui savent très bien faire un constat d'état, mobiliser les compétences qu'il faut quand il y a tel péril, etc., et qui se retrouvaient dans une position de soigneur. Et quant aux artistes, ils se retrouvent en position d'éleveur. Par exemple, au château d'Oiron, on a dit à Duprat, bon, alors, nous, on s'occupe de l'exposition, mais par contre, on ne va pas se transformer en vivarium ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, contractuellement, l'artiste s'engage à fournir des insectes à l'établissement. Et ça devient le contrat, c'est le contrat qui a été établi entre l'artiste et le musée. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose d'assez expérimental qui nécessite de réfléchir, de trouver des solutions. C'est le bricolage au bon sens du terme, pas forcément faire n'importe quoi, mais regarder ce qui est, les possibilités du droit, les questions d'éthique aussi. On l'a souligné ce matin, les publics sont une demande d'éthique vis-à-vis du vivant qui est en plein boom. Mais je dirais chez les artistes aussi, si le vivant intéresse autant les artistes contemporains, c'est peut-être d'abord pour des questions d'éthique que pour des questions esthétiques. C'est-à-dire que c'est une génération qui est traversée par les enjeux qui nous traversent, nous qui sommes leurs contemporains, l'extinction des espèces, le réchauffement climatique, etc. Et c'est pour ça qu'ils s'en saisissent en tant que génération. Et c'est pour ça qu'on assiste à une espèce de... c'est peut-être un symptôme terrible d'ailleurs que le vivant vienne tant dans les œuvres d'art au moment où il se dépeuple. Et j'en terminerai sur ce constat et je suis prêt à discuter après avec vous de ces différents éléments. Merci beaucoup.